Vous êtes sur RTL.
France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
Avec ce matin les grandes questions politiques de l'actualité sur RTL et nos experts. Et ce remaniement donc imminent, Emmanuel Macron à la recherche d'un difficile équilibre. Bonjour Isabelle Choquet, Aurélie Herbemont et Olivier Bost.
Bonjour. Bonjour.
Alors Aurélie, je commence avec vous. Quelles sont les toutes dernières infos que vous avez glanées?
Alors d'abord, le sort de Damien Abad semble scellé ce matin, au point que le nom du directeur de la Croix-Rouge circule pour le remplacer aux solidarités. Toujours dans ce ministère, eh bien, vous savez, il faut remplacer Brigitte Bourguignon qui a été battue aux législatives. Là, c'est François Braun, le médecin qui a fait la mission flash sur l'hôpital et qui a rendu ses 41 préconisations la semaine dernière au gouvernement, qui devrait faire son entrée. Du côté des entrants, on a aussi le nom de Caroline Cailleux, l'ex-LR qui est maire de Beauvais. Du côté du Modem, le député des Yvelines, Jean-Noël Barrot, pourrait aussi intégrer le gouvernement. Et on pourrait voir le retour de deux ex-ministres, Sarah El-Haïry et Geneviève Darrieussecq. Et puis surtout, il y a un jeu de chaises musicales qui est en préparation. Olivier Véran doit devenir porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivia Grégoire qui retourne à Bercy avec les portefeuilles tourisme, PME, entreprise, artisanat, commerce, artisanat. Alors c'est un poste dont elle rêvait avant la présidentielle. Et du coup, pour remplacer Olivier Véran au ministère des Relations avec le Parlement, eh bien ça semble bien parti pour Franck Riester, l'ex-LR qui va donc avoir un poste stratégique pour négocier avec les oppositions. Autre jeu de chaise musicale peut-être, le proche d'Édouard Philippe, Christophe Béchu, qui était aux collectivités locales, eh bien lui, il est pressenti pour remplacer Amélie de Montchalin à la transition écologique.
Donc vous avez une autre hypothèse d'informations. Alors, est-ce qu'on peut déjà en faire une? On met quelques points de suspension,
oui,
bien entendu.
C'est pas nommé officiellement.
On est d'accord. Quelle analyse peut-on en faire déjà, en tout cas des premières bribes de nomination? Olivier
Alors,
Bost.
C'est un remaniement dans les très grandes lignes, moins politique que technique.
Oui.
Technique au sens où il y a quelques bougées stratégiques. On s'adapte à la situation politique nouvelle, c'est-à-dire que la majorité n'a pas de majorité absolue au Parlement. C'est quelques bougées opérationnelles. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui sachent de quoi ils parlent très vite et qui soient capables de diriger leur ministère. Et puis, il y a des équilibrages ou des rééquilibrages, l'équilibrage homme-femme, bien évidemment, à garder avec une parité dans le gouvernement. Et puis également des équilibres dans la majorité entre le Modem, Horizon et le parti d'origine d'Emmanuel Macron. Là, il va y avoir plus de ministres Modem. On a entendu François Bayrou aller régulièrement.
Oui, donc là, c'est une spécialité de François Bayrou.
Et voilà, donc je dirais que c'est... Et il y a une donnée très importante, c'est que tout ça se fait globalement, à quelques exceptions près, société civile, tout cela se fait vraiment dans l'univers de la majorité actuelle, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron, Horizon et le Modem. Il n'y a pas, à l'exception de quelques maires, de ralliement.
Voilà, pas de gros débauchage. En revanche, moi j'ai quand même la perception d'un remaniement qui ne serait pas que technique. C'est-à-dire que le mouvement est un peu plus important qu'on ne l'imaginait. Enfin, je sais pas, Aurélie Herbemont.
C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du résultat des législatives, pas de majorité absolue, donc il faut quand même des ministres assez solides politiquement, parce que c'est un ministre qui me disait la semaine dernière les lois, elles vont plus se faire dans les réunions interministérielles, mais elles vont se faire à la buvette de l'Assemblée. Donc il faut des ministres qui s'y connaissent en politique et qui soient la bonne personne à la bonne place. Vous voyez, pour le cas d'Olivier Véran, certains proches d'Emmanuel Macron disaient ces jours-ci que c'était pas forcément la bonne personne pour négocier avec l'opposition. Ça avait été un peu tendu pendant le Covid. Franck Riester aurait un profil plus consensuel pour aller négocier avec les oppositions.
Oui, Franck Riester, l'avantage de son positionnement politique, il est à Agir, c'est-à-dire un groupe qui est issu de la droite. Donc pour aller négocier, parce que c'est principalement à droite qu'il faut aller négocier avec des députés pour obtenir des majorités au coup par coup, bah Franck Riester est effectivement bien mieux placé qu'Olivier Véran. Il faut se souvenir, Olivier Véran, il avait dit à un moment aux députés, si vous n'êtes pas content, sortez d'ici, en pleine crise Covid.
Oui.
Donc c'est pas du tout le personnage adapté pour ça. Effectivement, la phrase exacte d'entourage d'Emmanuel Macron, c'est de dire que c'était un ministre des Relations avec le Parlement pour mater une majorité. C'est pas du tout
pour négocier des accords sur des textes.
Exactement.
Alors, Isabelle, est-ce qu'on sait un petit peu ce que veulent les Français concernant ce gouvernement?
On a une petite idée, oui, si ça se confirme. nos informations, là, ils ne vont pas être très très contents parce que, a priori, ils veulent du vert, les Français. Ils voudraient du vert. Un sur deux veut des écolos au gouvernement. C'est ce que disait en tout cas un sondage là pour BFM.
J'ai envie de vous dire, ils n'ont qu'à voter pour eux.
Pas faux non plus. Alors, ils veulent du vert, ils veulent du bleu aussi. 47% veulent des personnalités LR. Bon, bah là, il y aura un petit peu plus de satisfaction. Et puis, surtout, ils voulaient un remaniement plus large que les quatre ministres qui étaient donnés sortants et qu'il fallait remplacer. Ça, c'est dans un sondage Odoxa pour le Figaro, qui dit aussi que les Français, visiblement, bon, ils se sont habitués à Elisabeth Borne. Ils sont 51% à souhaiter qu'elle reste à Matignon. Ah. C'est 9 points de plus en une semaine, c'est plutôt pas mal. Mais ils sont aussi 66% à penser qu'elle doit se soumettre au vote de confiance, pardon, même si c'est risqué. Donc, quand même, ils ne lui donnent pas non plus un blanc-seing total.
Écoutez, on est un peuple politique, parce que, quand même, en une semaine, elle prend 9 points, et en même temps, il y a cette espèce d'équilibre, si je puis dire, de l'autre côté. Bah oui, mais enfin, faut quand même qu'elle se confronte éventuellement à un vote.
Mais c'est à l'image du vote législatif, vraiment pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a quand même des Français qui élisent sans aucune discussion Emmanuel Macron président, qui ensuite ne lui donnent pas de majorité claire à l'Assemblée. On retrouve tout ça, c'est-à-dire, en clair, ce que disent les Français, c'est... on a voté, on a donné une majorité éparse. Maintenant, débrouillez-vous et gouvernez.
Olivier, le cas Abad est tranché, hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible.
Ah non, ça semble clair, d'autant plus qu'il y a des nouveaux témoignages. Donc là, c'était vraiment devenu un supplice total. Et surtout, pour Elisabeth Borne, c'était très important. C'était une question pour elle. Elle ne peut pas supporter ce genre de choses et ce genre de cas dans son gouvernement. Là, c'était vraiment une question essentielle et son sort est parfaitement réglé.
Est-ce que ce remaniement peut donner un nouvel élan? Parce que c'est quand même le propos, c'est qu'on ait l'impression de les voir au boulot et qu'il se passe quelque chose à la tête de l'exécutif, qu'on ait voté ou non pour eux d'ailleurs, Aurélie Herbemont.
Alors, donner un élan... je ne sais pas, c'est difficile à dire, parce qu'un remaniement, généralement, ça ne provoque pas un émoi particulier dans l'opinion. Mais par contre, c'est vrai que là, l'exécutif va pouvoir se mettre au boulot, parce que c'est vrai que depuis le début du quinquennat, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, voilà, ils vont potentiellement avoir deux conseils des ministres cette semaine. Un cet après-midi sur le sanitaire pour maintenir les outils de surveillance du Covid, et un jeudi sur le pouvoir d'achat. Mercredi, il y aura le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron veut recevoir dans la semaine les députés de la majorité. Voilà, maintenant, il est temps, on commence à s'approcher gentiment de la mi-juillet, il est temps que le gouvernement montre qu'il est au travail. Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril, quand même.
Bah oui, alors mercredi, donc, le discours de politique générale, elle va solliciter la confiance ou pas?
Ça reste une question ouverte ce matin. En fait, je pense que jusqu'au quasiment dernier moment, parce que c'est pas possible.
Mais il y a un vrai risque ou c'est un risque mesuré? Excusez-moi de vous interrompre.
Bah, c'est, en fait, s'il y a un risque, elle ne le prendra pas. Donc c'est vraiment il s'agit de sonder et de voir. C'est comme quand vous dégainez un 49-3 dans une loi. Oui. Il y a un moment, si vous sentez que ça va être serré, vous ne prenez pas ce risque-là, parce que là, pour le coup, un vote négatif est terrible. C'est-à-dire que ça fait tomber la Première ministre et ça remet tout en cause. Et on est reparti là pour des semaines de paralysie. C'est impossible politiquement d'assumer une chose pareille.
C'est très compliqué. Et puis aussi, certains disent, même si ça devait passer, si c'est pour qu'elle soit confirmée avec une abstention du Rassemblement national, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc c'est encore un sujet en débat qui sera tranché, mais beaucoup plaident pour qu'elle ne le fasse pas, parce qu'il y a un risque. Imaginez que toute l'opposition qui dit oui, on va s'abstenir, puis finalement vote contre elle, ils auraient l'air malins. Et je vous dis, même une abstention du Rassemblement national qui sauverait Elisabeth Borne, ça n'enchanterait pas tout le monde dans la majorité.
Alors, une dernière question, quelle est la feuille de route de cette équipe qui est en train de se constituer et de ce gouvernement?
Ah bah, c'est de trouver des majorités à l'Assemblée pour faire adopter les projets de loi qui sont les plus urgents. Le plus urgent, bien évidemment, c'est le pouvoir d'achat. C'est vraiment la feuille de route quasi exclusive.
Et vous nous rappelez vos tout derniers noms que vous nous donniez au début de cette intervention, Aurélie. Voilà les dernières informations.
Oh là, je refais tout. Jeu de chaise musicale avec Olivier Véran qui doit devenir porte-parole à la place d'Olivier Grégoire qui retournerait à Bercy pour s'occuper de l'artisanat, commerce, PME, tourisme. Franck Riester, lui, l'ex-LR, récupérerait le ministère des Relations avec le Parlement, histoire de pouvoir négocier avec l'opposition et surtout la droite. Damien Abad devrait quitter dans les prochaines heures le gouvernement, le nom du directeur de la Croix-Rouge circule pour le remplacer. Et puis à la santé, c'est François Braun, le docteur François Braun, qui la semaine dernière avait rendu sa mission flash sur les urgences, qui devrait remplacer Brigitte Bourguignon.
Merci à nos experts. Isabelle...